Guy de Maupassant, le docteur Héraclius Gloss. Chapitre 1er, ce qu'était au moral le docteur Héraclius Gloss. C'était un très savant homme que le docteur Héraclius Gloss, quoique jamais le plus petit opuscule signé de lui n'eût paru chez les libraires de la ville. Tous les habitants de la docte cité de Balançon regardaient le docteur Héraclius comme un homme très savant. Comment et en quoi était-il docteur, nul n'eût pu le dire. On savait seulement que son père et son grand-père avaient été appelés docteurs par leurs concitoyens. Il avait hérité de leur titre en même temps que de leur nom et de leurs biens. Dans sa famille, on était docteur de père en fils, comme de père en fils on s'appelait Héraclius Gloss. Du reste, s'il ne possédait point de diplôme signé et contresigné par tous les membres de quelque illustre faculté, le docteur Héraclius n'en était pas moins pour cela un très digne et très savant homme. Il suffisait de voir les 40 rayons chargés de livres qui couvraient les 4 panneaux de son vaste cabinet pour être bien convaincu que jamais docteur plus érudit n'avait honoré la cité balançonnaise. Enfin, chaque fois qu'il était question de sa personne devant monsieur le doyen ou monsieur le recteur, on les voyait toujours sourire avec mystère. On rapporte même qu'un jour, monsieur le recteur avait fait de lui un grand éloge en latin devant monseigneur l'archevêque. Le témoin qui racontait cela citait d'ailleurs comme preuve irrécusable ces quelques mots qu'il avait entendus « Partoriant montes, nascitur ridiculus mus ». De plus, monsieur le doyen et monsieur le recteur dînaient chez lui tous les dimanches, aussi personne n'eût osé mettre en doute que le docteur Héraclius Gloss ne fût un très savant homme. Chapitre 2. Ce qu'était au physique le docteur Héraclius Gloss. S'il est vrai, comme certains philosophes le prétendent, qu'il y ait une harmonie parfaite entre le moral et le physique d'un homme, et qu'on puisse lire sur les lignes du visage les principaux traits du caractère, le docteur Héraclius n'était pas fait pour donner un démenti à cette assertion. Il était petit, vif, nerveux, il y avait en lui du rat, de la fouine et du basset, c'est-à-dire qu'il était de la famille des chercheurs, des rongeurs, des chasseurs et des infatigables. À le voir, on ne concevait pas que toutes les doctrines qu'il avait étudiées puissent entrer dans cette petite tête, mais on s'imaginait bien plutôt qu'il devait lui-même pénétrer dans la science et y vivre en la grignotant comme un rat dans un gros livre. Ce qu'il y avait surtout de singulier, c'était l'extraordinaire minceur de sa personne. Son ami le doyen prétendait, peut-être sans raison, qu'il avait dû être oublié pendant plusieurs siècles entre les feuillets d'un in-folio, à côté d'une rose ou d'une violette, car il était toujours très coquet, très parfumé. Sa figure, surtout, était tellement en lame de rasoir que les branches de ses lunettes d'or, dépassant démesurément ses tempes, faisaient assez l'effet d'une grande vergue sous le mât d'un navire. S'il n'eût été le savant docteur Héraclius, disait parfois monsieur le recteur de la faculté de Balançon, il aurait certainement fait un excellent couteau à papier. Il portait perruque, s'habillait avec soin, n'était jamais malade, aimait les bêtes, ne détestait pas les hommes et idolâtrait les brochettes de caille. Chapitre 3. À quoi le docteur Héraclius employait les 12 heures du jour. À peine le docteur était-il levé, savonné, rasé et lesté d'un petit pain au beurre trempé dans une tasse de chocolat à la vanille, qu'il descendait à son jardin. Jardin un peu vaste comme tous ceux des villes, mais agréable, ombragé, fleuri, silencieux, je dirais réfléchi si j'osais. Enfin, qu'on se figure ce que doit être le jardin idéal d'un philosophe à la recherche de la vérité, et on ne sera pas loin de connaître celui dont le docteur Héraclius Gloss faisait 3 ou 4 fois le tour au pas accéléré, avant de s'abandonner aux quotidiennes brochettes de caille du second déjeuner. Ce petit exercice, disait-il, était excellent au saut du lit. Il ranimait la circulation du sang engourdie par le sommeil, chassait les humeurs du cerveau et préparait les voies digestives. Après cela, le docteur déjeunait. Puis, aussitôt son café pris, et il le buvait d'un trait, ne s'abandonnant jamais aux somnolences des digestions commencées à table, il endossait sa grande redingote et s'en allait. Et chaque jour, après avoir passé devant la faculté et comparé l'heure de son oignon Louis XV à celle du hautain cadran de l'horloge universitaire, il disparaissait dans la ruelle des vieux pigeons, dont il ne sortait que pour rentrer dîner. Que faisait donc le docteur Héraclius Gloss dans la ruelle des vieux pigeons? Ce qu'il y faisait, bon Dieu, il y cherchait la vérité philosophique. Et voici comment. Dans cette petite ruelle obscure et sale, tous les bouquinistes de Balançon s'étaient donné rendez-vous. Il eût fallu des années pour lire seulement les titres de tous les ouvrages inattendus entassés de la cave au grenier dans les 50 baraques qui formaient la ruelle des vieux pigeons. Le docteur Héraclius Gloss regardait ruelle, maison, bouquiniste et bouquin comme sa propriété particulière. Il était arrivé souvent que certains marchands de bric-à-brac, au moment de se mettre au lit, avaient entendu quelques bruits dans son grenier, et montant à pas de loup, armé d'une gigantesque flamberge des temps passés, il avait trouvé le docteur Héraclius Gloss enseveli jusqu'à mi-corps dans les piles de bouquins, tenant d'une main un reste de chandelle qui lui fondait entre les doigts, et de l'autre feuilletant un antique manuscrit d'où il espérait peut-être faire jaillir la vérité. Et le pauvre docteur était bien surpris en apprenant que la cloche du beffroi avait sonné 9 heures depuis longtemps et qu'il mangerait un détestable dîner. C'est qu'il cherchait sérieusement le docteur Héraclius. Il connaissait à fond toutes les philosophies anciennes et modernes, il avait étudié les sectes de l'Inde et les religions des nègres d'Afrique, il n'était si mince peuplade parmi les barbares du Nord ou les sauvages du Sud dont il n'eût sondé les croyances. Hélas, hélas, plus il étudiait, cherchait, furetait, méditait, plus il était indécis. « Mon ami, disait-il un soir à monsieur le recteur, combien sont plus heureux que nous, les colons qui se lancent à travers les mers à la recherche d'un nouveau monde. Ils n'ont qu'à aller devant eux. Les difficultés qui les arrêtent ne viennent que d'obstacles matériels qu'un homme hardi franchit toujours, tandis que nous, ballottés sans cesse sur l'océan des incertitudes, entraînés brusquement par une hypothèse comme un navire par l'aquilon, nous rencontrons tout à coup, ainsi qu'un vent contraire, une doctrine opposée qui nous ramène sans espoir au port d'où nous étions sortis. Une nuit qu'il philosophait avec monsieur le doyen, il lui dit « Comme on a raison, mon ami, de prétendre que la vérité habite dans un puits. Les saoûs descendent tour à tour pour la pêcher et ne rapportent jamais que de l'eau claire. Je vous laisse deviner, ajouta-t-il finement, comment j'écris le mot « saut ». C'est le seul calembour qu'on l'ait jamais entendu faire. » Chapitre 4. À quoi le docteur Héraclius employait les 12 heures de la nuit. Quand le docteur Héraclius rentrait chez lui le soir, il était généralement beaucoup plus gros qu'au moment où il sortait. C'est qu'alors chacune de ses poches, et il en avait 18, était bourrée des antiques bouquins philosophiques qu'il venait d'acheter dans la ruelle des vieux pigeons. Et le facétieux recteur prétendait que si un chimiste l'eût analysé à ce moment, il aurait trouvé que le vieux papier entrait pour les 2/3 dans la composition du docteur. À 7 heures, Héraclius Gloss se mettait à table et, tout en mangeant, parcourait les vieux livres dont il venait de se rendre acquéreur. À 8h30, le docteur se levait magistralement. Ce n'était plus alors l'alerte et sémillant petit homme qu'il avait été tout le jour, mais le grave penseur dont le front plie sous le poids des hautes méditations comme un portefeuille sous un fardeau trop lourd. Après avoir lancé à sa gouvernante un majestueux « Je n'y suis pour personne », il disparaissait dans son cabinet. Une fois là, il s'asseyait devant sa table de travail encombrée de livres et il songeait. Quel étrange spectacle pour celui qui eût pu voir alors dans la pensée du docteur. Défilé monstrueux des divinités les plus contraires et des croyances les plus disparates, entrecroisement fantastique de doctrines et d'hypothèses. C'était comme une arène où les champions de toutes les philosophies se heurtaient dans un tournoi gigantesque. Ils amalgamaient, combinaient, mélangeaient le vieux spiritualisme oriental avec le matérialisme allemand, la morale des apôtres et celle d'Épicure. Ils tentaient des combinaisons de doctrines comme on essaye dans un laboratoire, des combinaisons chimiques, mais sans jamais avoir bouillonné à la surface la vérité tant désirée, et son bon ami le recteur soutenait que cette vérité philosophique éternellement attendue ressemblait beaucoup à une pierre philosophale d'achoppement. À minuit, le docteur se couchait, et les rêves de son sommeil étaient les mêmes que ceux de ses veilles. Chapitre 5. Comme quoi, monsieur le doyen attendait tout de l'éclectisme, le docteur de la révélation et monsieur le recteur de la digestion. Un soir que monsieur le doyen, monsieur le recteur et lui étaient réunis dans son vaste cabinet, ils eurent une discussion des plus intéressantes. « Mon ami, disait le doyen, il faut être éclectique et épicurien. Choisissez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. La philosophie est un vaste jardin qui s'étend sur toute la terre. Cueillez les fleurs éclatantes de l'Orient, les pâles floraisons du Nord, les violettes des champs et les roses des jardins, faites-en un bouquet et sentez-le. Si son parfum n'est pas le plus exquis qu'on puisse rêver, il sera du moins fort agréable et plus suave mille fois que celui d'une fleur unique, fût-elle la plus odorante du monde. « Plus varié, certes, reprit le docteur, mais plus suave, non, si vous arrivez à trouver la fleur qui réunit et concentre en elle tous les parfums des autres. » Car dans votre bouquet, vous ne pourrez empêcher certaines odeurs de se nuire, et en philosophie, certaines croyances de se contrarier. Le vrai est un, et avec votre éclectisme, vous n'obtiendrez jamais qu'une vérité de pièces et de morceaux. Moi aussi, j'ai été éclectique, maintenant je suis exclusif. Ce que je veux, ce n'est pas un à peu près de rencontre, mais la vérité absolue. Tout homme intelligent en a, je crois, le pressentiment, et le jour où il la trouvera sur sa route, il s'écriera « La voilà !» Il en est de même pour la beauté. Ainsi, moi, jusqu'à 25 ans, je n'ai jamais aimé. J'avais aperçu bien des femmes jolies, mais elles ne me disaient rien. Pour composer l'être idéal que j'entrevoyais, il aurait fallu leur prendre quelque chose à chacune, et encore, cela eût ressemblé au bouquet dont vous parliez tout à l'heure, on n'aurait pas obtenu de cette façon la beauté parfaite qui est indécomposable comme l'or et la vérité. Un jour, enfin, j'ai rencontré cette femme, j'ai compris que c'était elle et je l'ai aimée. Le docteur, un peu ému, se tut, et monsieur le recteur sourit finement en regardant monsieur le doyen. Au bout d'un moment, Héraclius Glos continua. « C'est de la révélation que nous devons tout attendre. C'est la révélation qui a illuminé l'apôtre Paul sur le chemin de Damas et lui a donné la foi chrétienne. » « Qui n'est pas la vraie ?» interrompit en riant le recteur, « puisque vous n'y croyez pas. Par conséquent, la révélation n'est pas plus sûre que l'éclectisme. « Pardon, mon ami, reprit le docteur. » Paul n'était pas un philosophe, il a eu une révélation d'à peu près. Son esprit n'aurait pas pu saisir la vérité absolue qui est abstraite. Mais la philosophie a marché depuis, et le jour où une circonstance quelconque, un livre, un mot peut-être, la révélera à un homme assez éclairé pour la comprendre, elle l'illuminera tout à coup, et toutes les superstitions s'effaceront devant elle comme les étoiles au lever du soleil. « Amen, dit le recteur, mais le lendemain vous aurez un second illuminé, un troisième le surlendemain, et ils se jetteront mutuellement à la tête leurs révélations qui, heureusement, ne sont pas des armes fort dangereuses. « Mais vous ne croyez donc à rien ?» s'écria le docteur qui commençait à se fâcher. « Je crois à la digestion, répondit gravement le recteur. « J'avale indifféremment toutes les croyances, tous les dogmes, toutes les morales, toutes les superstitions, toutes les hypothèses, toutes les illusions, de même que dans un bon dîner, je mange avec un plaisir égal, potage, hors d'œuvre, rôti, légumes, entremets et desserts, après quoi je m'étends philosophiquement dans mon lit, certain que ma tranquille digestion m'apportera un sommeil agréable pour la nuit, la vie et la santé le lendemain. Si vous m'en croyez, se hâta de dire le doyen, nous ne pousserons pas plus loin la comparaison. » Une heure après, comme il sortait de la maison du savant Héraclius, le recteur se mit à rire tout à coup et dit, « Ce pauvre docteur, si la vérité lui apparaît comme la femme aimée, il sera bien l'homme le plus trompé que la terre ait jamais porté. » Et un ivrogne qui s'efforçait de rentrer chez lui se laissa tomber d'épouvante en entendant le rire puissant du doyen qui accompagnait en basse profonde le fausset aigu du recteur. Chapitre 6. Comme quoi le chemin de Damas du docteur se trouva être la ruelle des vieux pigeons et comment la vérité l'illumina sous la forme d'un manuscrit métempsychociste. Le 17 mars de l'an de grâce 1700 le docteur s'éveilla tout enfiévré. Pendant la nuit, il avait vu plusieurs fois en rêve un grand homme blanc, habillé à l'antique, qui lui touchait le front du doigt en prononçant des paroles inintelligibles, et ce songe avait paru au savant Héraclius un avertissement très significatif. De quoi était-ce un avertissement, et en quoi était-il significatif? Le docteur ne le savait pas au juste, mais néanmoins, il attendait quelque chose. Après son déjeuner, il se rendit comme de coutume dans la ruelle des Vieux Pigeons et entra, comme le midi sonnait, au numéro 31, chez Nicolas Bricolet, costumier, marchand de meubles antiques, bouquiniste et réparateur de chaussures anciennes, c'est-à-dire savetier, à ses moments perdus. Le docteur, comme mu par une inspiration, monta immédiatement au grenier, mit la main sur le troisième rayon d'une armoire Louis XIII et en retira un volumineux manuscrit en parchemin intitulé « Mes 18 nuits en psychose, l'histoire de mes existences depuis l'an 184 de l'ère appelée chrétienne ». Immédiatement après ce titre singulier se trouvait l'introduction suivante qu'Héraclius Glosse déchiffra incontinent. Ce manuscrit, qui contient le récit fidèle de mes transmigrations, a été commencé par moi dans la cité romaine, en l'an 184 de l'ère chrétienne, comme il est dit ci-dessus. Je signe cette explication destinée à éclairer les humains sur les alternances des réapparitions de l'âme, ce jour-là, 16 avril 1748, en la ville de Balançon, où m'ont jeté les vicissitudes de mon destin. Il suffira à tout homme éclairé et préoccupé des problèmes philosophiques de jeter les yeux sur ces pages pour que la lumière se fasse en lui de la façon la plus éclatante. Je vais pour cela résumer en quelques lignes la substance de mon histoire qu'on pourra lire plus bas pour peu qu'on sache le latin, le grec, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le français. Car à ces époques différentes de mes réapparitions humaines, j'ai vécu chez ces peuples divers. Puis j'expliquerai par quel enchaînement d'idées, quelles précautions psychologiques et quels moyens mnémotechniques je suis arrivé infailliblement à mes conclusions métampsychocistes. En l'an 184, j'habitais Rome et j'étais philosophe. Comme je me promenais un jour sur la voie appienne, il me vint à la pensée que Pythagore pouvait avoir été comme l'aube indécise d'un grand jour près de naître. À partir de ce moment, je n'ai plus qu'un désir, qu'un but, qu'une préoccupation constante, me souvenir de mon passé. Hélas, tous mes efforts furent vains, et il ne me revenait rien des existences antérieures. Or, un jour, je vis par hasard, sur le socle d'une statue de Jupiter placée dans mon atrium, quelques traits que j'avais gravés dans ma jeunesse, et qui me rappelèrent tout à coup un événement depuis longtemps oublié. Ce fut comme un rayon de lumière, et je compris que si quelques années, parfois même une nuit, suffisent pour effacer un souvenir, à plus forte raison les choses accomplies dans les existences antérieures et sur lesquelles a passé la grande somnolence des vies intermédiaires et animales, doivent disparaître de notre mémoire. Alors, je gravai mon histoire sur des tablettes de pierre, espérant que le destin me la remettrait peut-être un jour sous les yeux et qu'elle serait pour moi comme l'écriture retrouvée sur le socle de ma statue. Ce que j'avais désiré se réalisa. Un siècle plus tard, comme j'étais architecte, on me chargea de démolir une vieille maison pour bâtir un palais à la place qu'elle avait occupée. Les ouvriers que je dirigeais m'apportèrent un jour une pierre brisée, couverte d'écritures qu'ils avaient trouvées en creusant les fondations. Je me mis à la déchiffrer, et tout en lisant la vie de celui qui avait tracé ces signes, ils me revenaient par instants comme des lueurs rapides d'un passé oublié. Peu à peu, le jour se fit dans mon âme, je compris, je me souvins. Cette pierre, c'était moi qui l'avais gravée. Mais pendant cet intervalle d'un siècle, qu'avais-je fait, qu'avais-je été, sous quelle forme avais-je souffert? Rien ne pouvait me l'apprendre. Un jour pourtant, j'eus un indice, mais si faible et si nébuleux que je n'oserais l'invoquer. Un vieillard qui était mon voisin me racontait qu'on avait beaucoup ri dans Rome 50 ans auparavant, juste 9 mois avant ma naissance, d'une aventure arrivée au sénateur Marcus Antonius Cornelius Lipa. Sa femme, qui était jolie et très perverse, dit-on, avait acheté à des marchands phéniciens un grand singe qu'elle aimait beaucoup. Le sénateur Cornelius Lipa fut jaloux de l'affection de sa moitié pour ce quadrumane à visage d'homme et le tua. J'eus, en écoutant cette histoire, une perception très vague que ce singe-là, c'était moi, que sous cette forme j'avais longtemps souffert comme du souvenir d'une déchéance. Mais je ne retrouvais rien de bien clair et de bien précis. Cependant, je fus amené à établir cette hypothèse qui est du moins fort vraisemblable. La forme animale est une pénitence imposée à l'âme pour les crimes commis sous la forme humaine. Le souvenir des existences supérieures est donné à la bête pour la châtier par le sentiment de sa déchéance. L'âme purifiée par la souffrance peut seule reprendre la forme humaine. Elle perd alors la mémoire des périodes animales qu'elle a traversées, puisqu'elle est régénérée et que cette connaissance serait pour elle une souffrance imméritée. Par conséquent, l'homme doit protéger et respecter la bête comme on respecte un coupable qui expie, et pour que d'autres le protègent à son tour quand il réapparaîtra sous cette forme. Ce qui revient à peu de choses à cette formule de la morale chrétienne « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie ». On verra, par le récit de mes métempsychoses, comment j'eus le bonheur de retrouver mes mémoires dans chacune de mes existences, comment je transcrivis de nouveau cette histoire sur des tablettes d'airain, puis sur du papyrus d'Égypte, et enfin, beaucoup plus tard, sur le parchemin allemand dont je me sers encore aujourd'hui. Il me reste à tirer la conclusion philosophique de cette doctrine. Toutes les philosophies se sont arrêtées devant l'insoluble problème de la destinée de l'âme. Les dogmes chrétiens qui prévalent aujourd'hui enseignent que Dieu réunira les justes dans un paradis et enverra les méchants en enfer où ils brûleront avec le diable. Mais le bon sens moderne ne croit plus au Dieu à visage de patriarche abritant sous ses ailes les âmes des bons comme une poule ses poussins et, à plus de raison, contredit les dogmes chrétiens. Car le paradis ne peut être nulle part et l'enfer nulle part, puisque l'espace illimité est peuplé par des mondes semblables aux nôtres. Puisqu'en multipliant les générations qui se sont succédées depuis le commencement de cette terre par celles qui ont pullulé sur les mondes innombrables habités comme le nôtre, on arriverait à un nombre d'âmes tellement surnaturel et impossible, le multiplicateur étant infini, que Dieu infailliblement en perdrait la tête, quelque solide qu'elle fût, et le diable serait dans le même cas, ce qui amènerait une perturbation fâcheuse. Puisque le nombre des âmes des justes étant infini, comme le nombre des âmes des méchants et comme l'espace, il faudrait un paradis infini et un enfer infini, ce qui revient à ceci, que le paradis serait partout et l'enfer partout, c'est-à-dire nulle part. Or la raison ne contredit pas la croyance métempsychociste. L'âme, passant du serpent au pourceau, du pourceau à l'oiseau, de l'oiseau au chien, arrive enfin au singe et à l'homme. Puisque toujours elle recommence à chaque faute nouvelle commise jusqu'au moment où elle atteint la somme de purification terrestre qui l'a fait émigrer dans un monde supérieur. Ainsi, elle passe sans cesse de bête en bête et de sphère en sphère, allant du plus imparfait au plus parfait, pour arriver enfin dans la planète du bonheur suprême, d'où une nouvelle faute peut de nouveau la précipiter dans les régions de la suprême souffrance où elle recommence ses transmigrations. Le cercle, figure universelle et fatale, enferme donc les vicissitudes de nos existences, de même qu'il gouverne les évolutions des mondes. Chapitre 7. Comme quoi l'on peut interpréter de deux manières un vers de Corneille. À peine le docteur Héraclius eut-il terminé la lecture de cet étrange document qu'il demeura raide de stupéfaction. Puis il acheta sans marchander, moyennant la somme de 12 livres 11 sous, le bouquiniste le faisant passer pour un manuscrit hébreu retrouvé dans les fouilles de Pompéi. Pendant 4 jours et 4 nuits, le docteur ne quitta pas son cabinet, et il parvint, à force de patience et de dictionnaire, à déchiffrer, tant bien que mal, les périodes allemandes et espagnoles du manuscrit, car s'il savait le grec, le latin et un peu l'italien, il ignorait presque totalement l'allemand et l'espagnol. Enfin, craignant d'être tombé dans les contresens les plus grossiers, il pria son ami le recteur, qui possédait à fond ces deux langues, de bien vouloir relire sa traduction. Ce dernier le fit avec grand plaisir, mais il fut 3 jours entiers avant de pouvoir entreprendre sérieusement son travail, étant envahi chaque fois qu'il parcourait la version du docteur par un rire si long et si violent que 2 fois il en eut presque des syncopes. Comme on lui demandait la cause de cette hilarité extraordinaire, « La cause, répondit-il d'abord, il y en a 3. Primo, la figure désopilée de mon excellent confrère Héraclius. Segundo, sa traduction désopilante, qui ressemble au texte approximativement comme une guitare un moulin à vent. Et tertio, enfin, le texte lui-même, qui est bien la chose la plus drôle qu'il soit possible d'imaginer. » Oh, recteur obstiné, rien ne put le convaincre. Le soleil serait venu en personne lui brûler la barbe et les cheveux, qu'il l'aurait pris pour une chandelle. Quant au docteur Héraclius Gloss, je n'ai pas besoin de dire qu'il était rayonnant, illuminé, transformé. Il répondait à tout moment, comme Pauline, « Je vois, je sens, je crois, je suis désabusé ». Et chaque fois, le recteur l'interrompait pour faire remarquer que « désabusé » devait s'écrire en deux mots avec un « s » à la fin. « Je vois, je sens, je crois, je suis désabusé ». Chapitre 8. Comme quoi, pour la même raison qu'on peut être plus royaliste que le roi et plus dévot que le pape, on peut également devenir plus métempsychociste que Pythagore. Quelle que soit la joie du naufragé qui, après avoir erré pendant de longs jours et de longues nuits par la mer immense, perdu sur un radeau fragile, sans mât, sans voile, sans boussole et sans espérance, aperçoit tout à coup le rivage tant désiré, cette joie n'était rien auprès de celle qui inonda le docteur Héraclius Gloss, lorsqu'après avoir été si longtemps ballotté par la houle des philosophies sur le radeau des incertitudes, il entra enfin, triomphant et illuminé, dans le port de la métempsychose. La vérité de cette doctrine l'avait frappé si fortement qu'il embrassa d'un seul coup jusque dans ses conséquences les plus extrêmes. Rien n'était plus obscur pour lui, et en quelques jours, à force de méditation et de calcul, il en était arrivé à fixer l'époque exacte à laquelle un homme, mort en telle année, réapparaîtrait sur la terre. Il savait à peu de choses près la date de toutes les transmigrations d'une âme dans les êtres inférieurs, et selon la somme présumée du bien ou du mal accompli dans la dernière période de la vie humaine, il pouvait assigner le moment où cette âme entrerait dans le corps d'un serpent, d'un porc, d'un cheval de fatigue, d'un bœuf, d'un chien, d'un éléphant ou d'un singe. Les réapparitions d'une même âme dans son enveloppe supérieure se succédaient à intervalles réguliers, quelques pussent été ses fautes antérieures. Ainsi, le degré de punition, toujours proportionné au degré de culpabilité, consistait non point dans la durée plus ou moins longue de l'exil sous des formes animales, mais dans le séjour plus ou moins prolongé que faisait cette âme dans la peau d'une bête immonde. L'échelle des bêtes commençait aux degrés inférieurs par le serpent ou le pourceau, pour finir par le singe, qui est un homme privé de la parole, disait le docteur, à quoi son excellent ami le recteur répondait toujours qu'en vertu du même raisonnement, Héraclius Gloss n'était pas autre chose qu'un singe doué de la parole. Chapitre 9. Médailles et revers. Le docteur Héraclius fut bien heureux pendant les quelques jours qui suivirent sa surprenante découverte. Il vivait dans une jubilation profonde. Il était plein du rayonnement, des difficultés vaincues, des mystères dévoilés, des grandes espérances réalisées. La métempsychose l'environnait comme un ciel. Il lui semblait qu'un voile se fût déchiré tout à coup et que ses yeux se fussent ouverts aux choses inconnues. Il faisait asseoir son chien à table à ses côtés. Il avait avec lui de graves tête à tête au coin du feu, le cherchant à surprendre dans l'œil de l'innocente bête le mystère des existences précédentes. Il avait pourtant deux points noirs dans sa félicité, c'était monsieur le doyen et monsieur le recteur. Le doyen haussait les épaules avec fureur, toutes les fois qu'Héraclius essayait de le convertir à la doctrine métempsychociste, et le recteur le harcelait des plaisanteries les plus déplacées. Cela surtout était intolérable. Sitôt que le docteur développait sa croyance, le satanique recteur abondait dans son sens. Il contrefaisait l'adepte qui écoute la parole d'un grand apôtre, et il imaginait pour toutes les personnes de leur entourage les généalogies animales les plus invraisemblables. Ainsi, disait-il, le père Labonde, sonneur de la cathédrale de sa première transmigration, n'avait pas dû être autre chose qu'un melon. Et depuis, il avait du reste fort peu changé, se contentant de faire tinter matin et soir la cloche sous laquelle il avait grandi. Il prétendait que l'abbé Rosencroix, le premier vicaire de Sainte-Eulalie, avait été indubitablement une corneille qui abat des noix, car il en avait conservé la robe et les attributions. Puis, intervertissant les rôles de la façon la plus déplorable, il affirmait que maître Bocaille, le pharmacien, n'était qu'un ibis dégénéré, puisqu'il était contraint de se servir d'un instrument pour infiltrer ce remède si simple que, suivant Hérodote, l'oiseau sacré s'administrait lui-même avec l'unique recours de son bec allongé. Chapitre 10. Comme quoi un saltimbanque peut être plus rusé qu'un savant docteur. Le docteur Héraclius continua néanmoins, sans se décourager, la série de ses découvertes. Tout animal avait pour lui désormais une signification mystérieuse. Il cessait de voir la bête pour ne contempler que l'homme qui se purifiait sous cette enveloppe, et il devinait les fautes passées au seul aspect de la peau expiatoire. Un jour qu'il se promenait sur la place de Balançon, il aperçut une grande baraque en bois, d'où sortaient des hurlements terribles, tandis que sous l'estrade, un paillasse désarticulé invitait la foule à venir voir travailler le terrible dompteur apache Tomahawk ou le tonnerre grondant. Héraclius se sentit ému, il paya les 10 centimes demandés et entra. « Oh, fortune protectrice des grands esprits ! » À peine eut-il pénétré dans cette baraque qu'il aperçut une cage énorme sur laquelle étaient écrits ces 3 mots qui flamboyèrent souvent devant ses yeux éblouis, « Homme des bois ». Le docteur ressentit tout à coup le tremblement nerveux des grandes secousses morales, et, flageolant d'émotion, il s'approcha. Il vit alors un singe gigantesque, tranquillement assis sur son derrière, les jambes croisées, à la façon des tailleurs et des turcs, et devant ce superbe échantillon de l'homme dans sa dernière transmigration, Héraclius Glos, pâle de joie, s'abîma dans une méditation puissante. Au bout de quelques minutes, l'homme des bois, devinant sans doute l'irrésistible sympathie subitement éclose dans le cœur de l'homme des cités qu'il regardait obstinément, se mit à faire à son frère régénéré une si épouvantable grimace que le docteur sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Puis, après avoir exécuté une voltige fantastique absolument incompatible avec la dignité d'un homme, même absolument déchu, le citoyen aux 4 mains se livra à l'hilarité la plus inconvenante à la barbe du docteur. Ce dernier, cependant, ne trouva point choquante la gaieté de cette victime d'erreurs anciennes. Il vit au contraire une similitude de plus avec l'espèce humaine, une probabilité plus grande de parenté, et sa curiosité scientifique devint tellement violente qu'il résolut d'acheter à tout prix ce maître grimacier pour l'étudier à loisir. Quel bonheur pour lui, quel triomphe pour la grande doctrine, s'il parvenait enfin à se mettre en rapport avec la partie animale de l'humanité, à comprendre ce pauvre singe et à se faire entendre de lui. Naturellement, le maître de la ménagerie lui fit le plus grand éloge de son pensionnaire. C'était bien l'animal le plus intelligent, le plus doux, le plus gentil, le plus aimable qu'il ait vu dans sa longue carrière de montreur d'animaux féroces. Et pour appuyer son dire, il s'approcha des barreaux et y introduisit sa main que le singe mordit aussitôt par manière de plaisanterie. Naturellement, encore, il en demanda un prix fabuleux qu'Héraclius paya sans marchander. Puis, précédé de 2 portefaix pliés sous l'énorme cage, le docteur triomphant se dirigea vers son domicile. Chapitre 11, où il est démontré qu'Héraclius Glos n'était point exempt de toutes les faiblesses du sexe fort. Mais plus il approchait de sa maison, plus il ralentissait sa marche, car il agitait dans son esprit un problème bien autrement difficile encore que celui de la vérité philosophique, et ce problème se formulait ainsi pour l'infortuné docteur. Au moyen de quel subterfuge pourrais-je cacher à ma brave Honorine l'introduction sous mon toit de cette ébauche humaine ? Ah, c'est que le pauvre Héraclius, qui affrontait intrépidément les redoutables haussements d'épaules de monsieur le doyen et les plaisanteries terribles de monsieur le recteur, était loin d'être aussi brave devant les explosions de la bonne Honorine. Pourquoi donc le docteur craignait-il si fort cette petite femme, encore fraîche et gentille, qui paraissait si vive et si dévouée aux intérêts de son maître? Pourquoi? Demander pourquoi Héraclius filait au pied d'Omphale, pourquoi Samson laissa Dalila lui ravir sa force et son courage, qui résidaient dans ses cheveux, à ce que nous apprend la Bible. Hélas, un jour que le docteur promenait dans les champs le désespoir d'une grande passion trahie, car ce n'était pas sans raison que monsieur le doyen, monsieur le recteur s'étaient si fort amusés aux dépens d'Héraclius certains soirs qu'il rentrait chez eux, il rencontra au coin d'une haie une petite fille gardant des moutons. Le savant homme, qui n'avait pas toujours été exclusivement dans la vérité philosophique et qui d'ailleurs ne soupçonnait pas encore le grand mystère de la métempsychose, au lieu de ne s'occuper que des brebis, comme il l'eût certainement fait, s'il avait su ce qu'il ignorait, hélas, se mit à causer avec celle qui les gardait. Il la prit bientôt à son service, et une première faiblesse autorisa les suivantes. Ce fut lui qui devint en peu de temps le mouton de cette pastourelle, et l'on disait tout bas que si, comme celle de la Bible, cette Dalila rustique avait coupé les cheveux du pauvre homme tout confiant, elle n'avait point pour cela privé son fond de tout ornement. Hélas, ce qu'il avait prévu se réalisa, et même au-delà de ses appréhensions. À peine eut-elle vu l'habitant des bois, captif dans sa maison de fil de fer, qu'Honorine s'abandonna aux éclats de la fureur la plus déplacée, et après avoir accablé son maître épouvanté d'une averse d'épithètes fort malsonnantes, elle fit retomber sa colère contre l'hôte inattendu qui lui arrivait. Mais ce dernier, n'ayant pas sans doute les mêmes raisons que le docteur pour ménager une gouvernante aussi mal apprise, se mit à crier, hurler, trépigner, grincer des dents. Il s'accrochait aux barreaux de sa prison avec un si furieux emportement, accompagné de gestes tellement indiscrets à l'adresse d'une personne qu'il voyait pour la première fois, que celle-ci dut battre hors tête et aller, comme un guerrier vaincu, s'enfermer dans sa cuisine. Ainsi, maître du champ de bataille, et enchanté du secours inattendu que son intelligent compagnon venait de lui fournir, Héraclius le fit emporter dans son cabinet, où il installa la cage et son habitant devant sa table au coin du feu. Chapitre 12. Comme quoi dompteur et docteur ne sont nullement synonymes. Alors commença un échange de regards des plus significatifs entre les deux individus qui se trouvaient en présence, et chaque jour, pendant une semaine entière, le docteur passa de longues heures à converser au moyen des yeux, du moins croyait-il, avec l'intéressant sujet qu'il s'était procuré. Mais cela ne suffisait pas. Ce qu'Héraclius voulait, c'était étudier l'animal en liberté, surprendre ses secrets, ses désirs, ses pensées, le laisser aller et venir à sa guise, et par la fréquentation journalière de la vie intime, le voir recouvrer les habitudes oubliées et reconnaître ainsi, à des signes certains, le souvenir de l'existence précédente. Mais pour cela, il fallait que son hôte fût libre, partant que la cage fût ouverte. Or, cette entreprise n'était rien moins que rassurante. Le docteur avait beau essayer de l'influence du magnétisme et de celle des gâteaux et des noix, le quadrumane se livrait à des manœuvres inquiétantes pour les yeux d'Héraclius chaque fois que celui-ci s'approchait un peu trop près des barreaux. Un jour enfin, ne pouvant résister au désir qui le torturait, il s'avança brusquement, tourna la clé dans le cadenas, ouvrit la porte toute grande et, palpitant d'émotion, s'éloigna de quelques pas, attendant l'événement qui, du reste, ne se fit pas longuement attendre. Le singe, étonné, hésita d'abord, puis, d'un bond, il fut dehors, d'un autre saut la table, dont, en moins d'une seconde, il eut bouleversé les papiers et les livres, puis, d'un troisième saut, il se trouva dans les bras du docteur, et les témoignages de son affection furent si violents que, si Héraclius n'eût porté perruque, ses derniers cheveux fussent assurément restés entre les doigts de son redoutable frère. Mais si le singe était agile, le docteur ne l'était pas moins. Il bondit à droite, puis à gauche, glissa comme une anguille sous la table, franchit les fauteuils comme un lévrier, et toujours poursuivi, atteigna enfin la porte qu'il ferma brusquement derrière lui. Alors, pantelant, comme un cheval de course qui touche au but, il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Pendant le reste du jour, Héraclius Gloss fut anéanti. Il ressentait en lui comme un écroulement. Mais ce qui le préoccupait le plus, c'est qu'il ignorait absolument de quelle façon son hôte imprévoyant ou lui-même pourrait sortir de leur position respective. Il approcha une chaise près de la porte infranchissable et se fit un observatoire du trou de la serrure. Aussitôt, il vit, ô prodige, ô félicité inespérée, l'heureux vainqueur étendu dans un fauteuil qui se chauffait les pieds au feu. Dans le premier transport de la joie, le docteur faillit entrer, mais la réflexion l'arrêta, et comme illuminé d'une lueur subite, il se dit que la famine ferait sans doute ce que la douceur n'avait pu faire. Cette fois, l'événement lui donna raison. Le singe affamé capitula. Comme au demeurant, c'était un bon garçon de singe, la réconciliation fut complète, et à partir de ce jour, le docteur et lui vécurent comme de vieux amis. Chapitre 13. Comme quoi le docteur Héraclius Gloss se trouva exactement dans la même position que le bon roi Henri IV, lequel, ayant ouï plaider de maître avocat, estimait que tous deux avaient raison. Quelque temps après ce jour mémorable, une pluie violente empêcha le docteur Héraclius de descendre à son jardin, comme il en avait l'habitude. Il s'assit dès le matin dans son cabinet et se mit à considérer philosophiquement son singe, qui, perché sur un secrétaire, s'amusait à lancer des boulettes de papier au chien Pythagore étendu devant le foyer. Le docteur étudiait les gradations et la progression de l'intellect chez ces hommes déclassés et comparait le degré de subtilité des deux animaux qui se trouvaient en sa présence. Chez le chien, se disait-il, l'instinct domine encore, tandis que chez le singe, le raisonnement prévaut. L'un flaire, écoute, perçoit avec ses merveilleux organes qui sont pour moitié dans son intelligence, l'autre combine et réfléchit. À ce moment, le singe, impatienté de l'indifférence et de l'immobilité de son ennemi, qui couchait tranquillement la tête sur les pattes, se contentait de lever les yeux de temps en temps vers son agresseur si haut retranché, se décida à venir tenter une reconnaissance. Il sauta légèrement de son meuble et s'avança si doucement, qu'on n'entendait absolument que le crépitement du feu et le tic-tac de la pendule, qui paraissait faire un bruit énorme dans le grand silence du cabinet. Puis, par un mouvement brusque et inattendu, il saisit à deux mains la queue empanachée de l'infortuné Pythagore. Mais ce dernier, toujours immobile, avait suivi chaque mouvement du quadrumane. Sa tranquillité n'était qu'un piège pour atterrir à sa portée son adversaire jusque-là inattaquable, et au moment où Maître Singe, content de son tour, lui saisissait l'appendice caudal, il se releva d'un bond, et avant que l'autre eût le temps de prendre la fuite, il avait saisi dans sa forte gueule de chien de chasse la partie de son rival, qu'on appelle pudiquement gigot chez les moutons. On ne sait comment la lutte se serait terminée si Héraclius ne s'était interposé. Mais quand il eut rétabli la paix, il se demandait, en se rasseyant fort essoufflé, si, tout bien considéré, son chien n'avait pas montré en cette occasion plus de malice que l'animal appelé malin par excellence. Et il demeura plongé dans une profonde perplexité. Chapitre 14. Comment Héraclius fut sur le point de manger une brochette de belle dame du temps passé. Comme l'heure du déjeuner était arrivée, le docteur entra dans sa salle à manger, s'assit devant sa table, introduisit sa serviette dans sa redingote, ouvrit à son côté le précieux manuscrit et allait porter à sa bouche un petit aileron de caille bien gras et bien parfumé, lorsque, jetant les yeux sur le livre saint, les quelques lignes sur lesquelles tomba son regard étincelèrent plus terriblement devant lui que les trois mots fameux écrits tout à coup par une main inconnue sous la muraille de la salle de festin du roi célèbre appelé Balthazar. Voici ce que le docteur avait aperçu. « Abstiens-toi de toute nourriture ayant eu vie, car manger de la bête, c'est manger son semblable, et j'estime aussi coupable celui qui, pénétré de la grande vérité métempsychociste, tue et dévore les animaux, qui ne sont autres que des hommes sous leurs formes inférieures, que l'anthropophage féroce qui se repaît de son ennemi vaincu. » Et sur la table, côte à côte, retenue par une petite aiguille d'argent, une demi-douzaine de cailles, fraîches et dodues, exhalaient dans l'air leur appétissante odeur. Le combat fut terrible entre l'esprit et le ventre, mais, disons-le, à la gloire d'Héraclius, il fut court. Le pauvre homme, anéanti, craignant de ne pouvoir résister longtemps à cette épouvantable tentation, sonna sa bonne et, d'une voix brisée, lui enjoignit d'avoir enlevé immédiatement ce mets abominable et de ne lui servir désormais que des œufs, du lait et des légumes. Honorine faillit tomber à la renverse en entendant ces surprenantes paroles. Elle voulut protester, mais devant l'œil inflexible de son maître, elle se sauva avec les volatiles condamnés, se consolant néanmoins par l'agréable pensée que, généralement, ce qui est perdu pour l'un ne l'est pas pour tous. Des cailles, que pouvaient bien avoir été les cailles dans une autre vie, se demandait le misérable Héraclius en mangeant tristement un superbe chou-fleur à la crème qui lui parut ce jour-là désastreusement mauvais. Quel être humain avait pu être assez élégant, délicat et fin pour passer dans le corps de ces exquises petites bêtes si coquettes et si jolies? Ah, certainement, ce ne pouvait être que les adorables petites maîtresses des siècles derniers. Et le docteur pâlit encore en songeant que depuis plus de 30 ans, il avait dévoré chaque jour à son déjeuner une demi-douzaine de ces belles dames du temps passé. Chapitre 15. Comment Monsieur le recteur interprète les commandements de Dieu. Le soir de ce malheureux jour, Monsieur le doyen et Monsieur le recteur vinrent causer pendant une heure ou deux dans le cabinet d'Héraclius. Le docteur leur raconta aussitôt l'embarras dans lequel ils se trouvaient et leur démontra comment les cailles et autres animaux comestibles étaient devenus tout aussi prohibés pour lui que le jambon pour un juif. Monsieur le doyen, qui sans doute avait mal dîné, perdut alors toute mesure et blasphéma de si terrible façon que le pauvre docteur, qu'il respectait beaucoup, tout en déplorant son aveuglement, ne savait plus où se cacher. Quant à monsieur le recteur, il approuva tout à fait les scrupules d'Héraclius, lui représentant même qu'un disciple de Pythagore, se nourrissant de la chair des animaux, pouvait s'exposer à manger la côte de son père aux champignons ou les pieds truffés de son aïeul, ce qui est absolument contraire à l'esprit de toute religion. Et il lui cita, à l'appui de son dire, le quatrième commandement du Dieu des chrétiens, « Tes pères et mères honoreras, afin de vivre longuement ». Il est vrai, ajouta-t-il, que pour moi qui ne suis pas un croyant, plutôt que de me laisser mourir de faim, j'aimerais mieux changer légèrement le précepte divin, ou même le remplacer par celui-ci, « Père et mère dévorera, afin de vivre longuement ». Chapitre 16. Comment la 42e lecture du manuscrit jeta un jour nouveau dans l'esprit du docteur. De même qu'un homme riche peut puiser chaque jour dans sa grande fortune de nouveaux plaisirs et des satisfactions nouvelles, ainsi le docteur Héraclius, propriétaire de l'inestimable manuscrit, y faisait de surprenantes découvertes chaque fois qu'il le relisait. Un jour, comme il allait achever la 42e lecture de ce document, une illumination subite s'abattit sur lui, aussi rapide que la foudre. Ainsi que nous l'avons vu précédemment, le docteur pouvait savoir à peu de choses près à quelle époque un homme disparu achèverait ses transmigrations et réapparaîtrait sous sa forme première. Aussi fut-il tout à coup foudroyé par cette pensée que l'auteur du manuscrit pouvait avoir reconquis sa place dans l'humanité. Alors, aussi enfiévré qu'un alchimiste qui se croit sur le point de trouver la pierre philosophale, il se livra aux calculs les plus minutieux pour établir la probabilité de cette supposition, et après plusieurs heures d'un travail opinâtre et de savantes combinaisons métampsychocystes, il arriva à se convaincre que cet homme devait être son contemporain, ou tout au moins sur le point de renaître à la vie raisonnante. Héraclius, en effet, ne possédant aucun document capable de lui indiquer la date précise de la mort du grand métopsychociste, ne pouvait fixer d'une façon certaine le moment de son retour. À peine eut-il entrevu la possibilité de retrouver cet être qui, pour lui, était plus qu'un homme, plus qu'un philosophe, presque plus qu'un dieu, qu'il ressentit une de ces émotions profondes qu'on éprouve quand on apprend tout à coup qu'un père qu'on croyait mort depuis des années est vivant et près de vous. Le saint Anachorète, qui a passé sa vie à se nourrir de l'amour et du souvenir du Christ, comprenant subitement que son Dieu va lui apparaître, n'aurait pas été plus bouleversé que le fut le docteur Héraclius Gloss lorsqu'il se fut assuré qu'il pourrait rencontrer un jour l'auteur de son manuscrit. Chapitre 17. Comment s'y prit le docteur Héraclius Gloss pour retrouver l'auteur du manuscrit. Quelques jours plus tard, les lecteurs de l'Étoile de Balançon aperçurent avec étonnement, à la quatrième page de ce journal, l'avertissement suivant. Pythagore, Rome, en l'an 184. Mémoire retrouvée sur le socle d'une statue de Jupiter, philosophe, architecte, soldat, laboureur, moine, géomètre, médecin, poète, marin, etc. Médite et souviens-toi, le récit de ta vie est entre mes mains. Écrire poste restante à Balançon aux initiales HG. Le docteur ne doutait pas que si l'homme qu'il désirait si ardemment venait à lire cet avis, incompréhensible pour tout autre, il en saisirait aussitôt le sens caché et se présenterait devant lui. Alors chaque jour, avant de se mettre à table, il allait demander au bureau de la poste si on n'avait pas reçu de lettre aux initiales HG. Et au moment où il poussait la porte sur laquelle étaient écrits ces mots « poste aux lettres, renseignement, affranchissement », il était certes plus ému qu'un amoureux sur le point d'ouvrir le premier billet de la femme aimée. Hélas, les jours se suivaient et se ressemblaient désespérément. L'employé venait chaque matin la même réponse au docteur et chaque matin celui-ci rentrait chez lui plus triste et plus découragé. Or, le peuple de Balançon étant, comme tous les peuples de la terre, subtil, indiscret, médisant et avide de nouvelles, eut bientôt rapproché l'avis surprenant inséré dans l'étoile avec les quotidiennes visites du docteur à l'administration des postes. Aussi, il se demanda quel mystère pouvait être caché là-dedans et il commença à murmurer. Chapitre 18. où le docteur Héraclius reconnaît avec stupéfaction l'auteur du manuscrit. Une nuit, comme le docteur ne pouvait dormir, il se releva entre 1 et 2 heures du matin pour aller relire un passage qu'il croyait n'avoir pas encore très bien compris. Il mit ses savates et ouvrit la porte de sa chambre le plus doucement possible pour ne pas troubler le sommeil de toutes les catégories d'hommes-animaux qui expiaient sous son toit. Or, quelles qu'eussent été les conditions précédentes de ces heureuses bêtes, jamais, certes, elles n'avaient joui d'une tranquillité et d'un bonheur aussi parfaits, car elles se trouvaient dans cette maison, avec bon souper, bon gîte, et même le reste, tant l'excellent homme avait le cœur compatissant. Il parvint, toujours sans faire le moindre bruit, jusqu'au seuil de son cabinet, et il entra. Ben certes, Héraclius était brave, il ne redoutait ni les fantômes ni les apparitions, mais, quelle que soit l'intrépidité d'un homme, il est des épouvantements qui trouent comme des boulets les courages les plus indomptables, et le docteur demeura debout, livide, terrifié, les yeux hagards, les cheveux dressés sur le crâne, claquant des dents et secoués de la tête aux talons par un épouvantable tremblement devant l'incompréhensible spectacle qui s'offrit à lui. Sa lampe de travail était allumée sur sa table et, devant son feu, le dos tourné à la porte par laquelle il entrait, il vit le docteur Héraclius Gloss lisant attentivement son manuscrit. Le doute n'était pas possible, c'était bien lui-même. Il avait sur les épaules sa longue robe de chambre en soie antique à grandes fleurs rouges et sur la tête son bonnet grec en velours noir brodé d'or. Le docteur comprit que si cet autre lui-même se retournait, que si les deux Héraclius se regardaient face à face, celui qui tremblait en ce moment dans sa peau tomberait foudroyé devant sa reproduction. Mais alors, saisi par un spasme nerveux, il ouvrit les mains et le bougeoir qu'il portait roula avec bruit sur le plancher. Ce fracas lui fit faire un bond terrible. L'autre se retourna brusquement et le docteur effaré reconnut son singe. Pendant quelques secondes, ses pensées tourbillonnèrent dans son cerveau comme des feuilles mortes emportées par l'ouragan, puis il fut envahi tout à coup par la joie la plus véhémente qu'il eût jamais ressentie, car il avait compris que cet auteur, attendu, désiré comme le Messie par les Juifs, était devant lui. C'était son singe. Il se précipita presque fou de bonheur, saisit dans ses bras l'être vénéré, et l'embrassa avec une telle frénésie que jamais maîtresse adorée ne fut plus passionnément embrassée par son amant. Puis il s'assit en face de lui, de l'autre côté de la cheminée, et jusqu'au matin, il le contempla religieusement. Chapitre 19. Comment le docteur se trouva placé dans la plus terrible des alternatives. Mais de même que les plus beaux jours de l'été sont parfois brusquement troublés par un effroyable orage, ainsi la félicité du docteur fut soudain traversée par la plus affreuse des suggestions. Il avait bien retrouvé celui qu'il cherchait, mais, hélas, ce n'était qu'un singe. Il se comprenait, sans nul doute, mais il ne pouvait se parler. Le docteur retomba du ciel sur la terre. Adieu ces longs entretiens dont il espérait tirer tant de profit. Adieu cette belle croisade contre la superstition qu'ils devaient entreprendre tous les deux. Car seul, le docteur ne possédait pas les armes suffisantes pour terrasser l'hydre de l'ignorance. Il lui fallait un homme, un apôtre, un confesseur, un martyr, rôle qu'un singe, hélas, était incapable de remplir. Que faire? Une voix terrible cria dans son oreille. Tue-le! Héraclius frissonna. En une seconde, il calcula que s'il le tuait, l'âme dégagée entrerait immédiatement dans le corps d'un enfant près de naître, qu'il fallait lui laisser au moins 20 années pour parvenir à sa maturité. Le docteur aurait alors 70 ans. Cependant, cela était possible. Mais alors, retrouverait-il cet homme? Puis sa religion défendait de supprimer tout être vivant, sous peine de commettre un assassinat. Et son âme à lui, Héraclius, passerait après sa mort dans le corps d'une bête féroce, comme cela arrivait pour les meurtriers. Qu'importe, il serait victime de la science et de la foi. Il saisit un grand cimeter turc suspendu dans une panoplie, et il allait frapper comme Abraham sur la montagne, quand une réflexion arrêta son bras. Si l'expiation de cet homme n'était pas terminée, et si, au lieu de passer dans le corps d'un enfant, son âme retournait pour la seconde fois dans celui d'un singe. Cela était possible, même vraisemblable, presque certain. Commettant de la sorte un crime inutile, le docteur se vouait sans profit pour ses semblables un terrible châtiment. Il retomba inerte sur son siège, ses émotions répétées l'avaient épuisé, et il s'évanouit. Chapitre 20. Où le docteur a une petite conversation avec sa bonne. Quand il rouvrit les yeux, sa bonne Honorine lui bassinait les tempes avec du vinaigre. Il était 7 heures du matin. La première pensée du docteur fut pour son singe. L'animal avait disparu. « Mon singe ! Où est mon singe ? » s'écria-t-il. « Ah, bien oui, parlons-en !» riposta la servante maîtresse, toujours prête à se fâcher. « Le grand mâle, quand il serait perdu, une jolie bête, ma foi. Elle imite tout ce qu'elle voit faire à monsieur. Ne l'ai-je pas trouvé l'autre jour qui mettait vos bottes ? Et puis ce matin, quand je vous ai ramassé là, et Dieu sait quelles maudites idées vous trottent par la tête depuis quelque temps et vous empêchent de rester dans votre lit, ce vilain animal, qui est plutôt un diable sous la peau d'un singe, n'avait-il pas mis votre calotte et votre robe de chambre et avait l'air de rire en vous regardant, comme si c'était bien amusant de voir un homme évanoui ? Puis, quand j'ai voulu m'approcher, cette canaille se jette sur moi comme s'il voulait me manger. Mais, Dieu merci, on n'est pas timide, on a encore le poignet bon. J'ai pris la pelle et j'ai si bien frappé sur son vilain dos qu'il s'est sauvé dans votre chambre, où il doit être encore en train de faire quelques nouveaux tours à sa façon. « Vous avez battu mon singe !» hurla le docteur exaspéré. « Apprenez, mademoiselle, que désormais, j'entends qu'on le respecte et qu'on le serve comme le maître de cette maison. » « Ah, bien oui, il n'est pas seulement le maître de la maison, mais voilà longtemps qu'il est déjà le maître du maître. » grommela Honorine, et elle se retira dans sa cuisine, convaincue que le docteur Héraclius Gloss était décidément fou. Chapitre 21. Comment il est démontré qu'il suffit d'un ami tendrement aimé pour alléger le poids des plus grands chagrins. Comme l'avait dit le docteur, à partir de ce jour, le singe devint véritablement le maître de la maison, et Héraclius se fit l'humble valet de ce noble animal. Il le considérait pendant des heures entières avec une tendresse infinie. Il avait pour lui des délicatesses d'amoureux. Il lui prodiguait à tout propos le dictionnaire entier des expressions tendres, lui serrant la main comme on fait à son ami, lui parlant en le regardant fixement, expliquant les points de ses discours qui pouvaient paraître obscurs, enveloppant la vie de cette bête des soins les plus doux et des plus exquises attentions. Et le singe se laissait faire, calme comme un dieu qui reçoit l'hommage de ses adorateurs. Ainsi que tous les grands esprits qui vivent solitaires, parce que leur élévation les isole au-dessus du niveau commun de la bêtise des peuples, Héraclius s'était senti seul jusqu'alors, seul dans ses travaux, seul dans ses espérances, seul dans ses luttes et ses défaillances, seul enfin dans sa découverte et son triomphe. Il n'avait pas encore imposé sa doctrine aux foules, il n'avait même pas pu convaincre ses deux amis les plus intimes, M. le recteur et M. le doyen. Mais à partir du jour où il eut découvert dans son singe le grand philosophe dont il avait si souvent rêvé, le docteur se sentit moins isolé. Convaincu que la bête n'est privée de la parole que par punition de ses fautes passées, et que par suite du même châtiment elle est remplie de souvenirs des existences antérieures, Héraclius se mit à aimer ardemment son compagnon, et il se consolait par cette affection de toutes les misères qui venaient le frapper. Depuis quelque temps, en effet, la vie devenait plus triste pour le docteur. Monsieur le doyen, monsieur le recteur le visitaient beaucoup moins souvent, et cela faisait un vide énorme autour de lui. Ils avaient même cessé de venir dîner chaque dimanche, depuis qu'il avait défendu de servir sur sa table toute nourriture ayant eu vie. Le changement de son régime était également pour lui une grande privation qui prenait par instant les proportions d'un chagrin véritable. Lui qui jadis attendait avec tant d'impatience l'heure si douce du déjeuner, la redoutait presque maintenant. Il entrait tristement dans sa salle à manger, sachant bien qu'il n'y avait plus rien d'agréable à en attendre, et il y était hanté sans cesse par le souvenir des brochettes de caille qui le harcelaient comme un remords. Hélas, ce n'est point le remords d'en avoir tant dévoré, mais plutôt le désespoir d'y avoir renoncé pour toujours. Chapitre 22. Où le docteur découvre que son singe lui ressemble encore plus qu'il ne pensait. Un matin, le docteur Héraclius fut réveillé par un bruit inusité. Il sauta du lit, s'habilla en toute hâte et se dirigea vers la cuisine où il entendait des cris et des trépignements extraordinaires. Roulant depuis longtemps dans son esprit les plus noirs projets de vengeance contre l'intrus qui lui ravissait l'affection de son maître, la perfide Honorine, qui connaissait les goûts et les appétits de ces animaux, avait réussi, au moyen d'une ruse quelconque, à ficeler solidement le pauvre singe au pied de sa table de cuisine. Puis, lorsqu'elle se fut assurée qu'il était bien fortement attaché, elle s'était retirée à l'autre bout de l'appartement, et s'amusant à lui montrer le régal le plus propre à exciter ses convoitises, elle lui faisait subir un épouvantable supplice de tantale qu'on ne doit infliger dans les enfers qu'à ceux qui ont énormément péché. Et la perverse gouvernante riait à gorge déployée et imaginait des raffinements de torture qu'une femme seule est capable de concevoir. L'homme singe se tordait avec fureur à l'aspect des mets savoureux qu'on lui présentait, et la rage de se sentir lié au pied de la table massive lui faisait exécuter de monstrueuses grimaces qui redoublaient la joie du bourreau tentateur. Enfin, juste au moment où le docteur, maître jaloux, apparut sur le seuil, la victime de cet horrible guet-apens réussit par un effort prodigieux à rompre les cordes qui le retenaient, et sans l'intervention violente d'Héraclius indigné, Dieu sait de quelle friandise se serait repu ce nouveau tantale à quatre mains. Chapitre 23. Comment le docteur s'aperçut que son singe l'avait indignement trompé. Cette fois, la colère l'emporta sur le respect, et le docteur, saisissant à la gorge le singe philosophe, l'entraîna hurlant dans son cabinet et lui administra la plus terrible correction qu'ait jamais reçue l'échine d'un métempsychociste. Lorsque le bras fatigué d'Héraclius desserra un peu la gorge de la pauvre bête, coupable seulement de goûts trop semblables à ceux de son frère supérieur, elle se dégagea de l'étreinte du maître outragé, sauta par-dessus la table, saisit sur un livre la grande tabatière du docteur et la précipita tout ouverte à la tête de son propriétaire. Ce dernier n'eut que le temps de fermer les yeux pour éviter le tourbillon de tabac qui l'aurait certainement aveuglé, mais quand il les rouvrit, le coupable avait disparu, emportant avec lui le manuscrit dont il était l'auteur présumé. La consternation d'Héraclius fut sans limite, et il s'élança comme un fou sur les traces du fugitif, décidé au plus grand sacrifice pour recouvrer le précieux parchemin. Il parcourut sa maison, de la cave au grenier, ouvrit toutes les armoires, regarda sous les meubles. Ses recherches demeurèrent absolument infructueuses. Enfin, il alla s'asseoir désespéré sous un arbre dans son jardin. Il lui semblait, depuis quelques instants, recevoir de petits coups légers sur le crâne, et il pensait que c'était des feuilles mortes détachées par le vent, quand il vit une boulette de papier qui roulait devant lui dans le chemin. Il la ramassa, puis l'ouvrit. Miséricorde, c'était une des feuilles de son manuscrit. Il leva la tête, épouvanté, et il aperçut l'abominable animal qui préparait tranquillement de nouveaux projectiles de la même espèce, et ce faisant, le monstre grimaçait un sourire de satisfaction si épouvantable que Satan, certes, n'en eut pas de plus horrible quand il vit Adam prendre la pomme fatale que, depuis Ève jusqu'à Honorine, les femmes n'ont cessé de nous offrir. À cet aspect, une lumière affreuse se fit soudain dans l'esprit du docteur, et il comprit qu'il avait été trompé, joué, mystifié de la façon la plus abominable par ce fourbe couvert de poils qui n'était pas plus l'auteur tant désiré que le papou le grand turc. Le précieux ouvrage eût disparu tout entier si Héraclius n'avait aperçu près de lui une de ces pompes d'arrosage dont se servent les jardiniers pour lancer l'eau dans les plates-bandes éloignées. Il s'en saisit rapidement et, la manœuvrant avec une vigueur surhumaine, fit prendre au perfide un bain tellement imprévu que celui-ci s'enfuit de branche en branche en poussant des cris aigus et, tout à coup, par une ruse de guerre habile, sans doute pour obtenir un instant de répit, il lança le parchemin lacéré en plein visage de son adversaire. Alors, quittant rapidement sa position, il courut vers la maison. Avant que le manuscrit n'eût touché le docteur, ce dernier roulait sur le dos les quatre membres en l'air, foudroyés par l'émotion. Quand il se releva, il n'eut pas la force de venger ce nouvel outrage. Il rentra péniblement dans son cabinet et constata, non sans plaisir, que trois pages seulement avaient disparu. Chapitre 24. Eureka. La visite de M. le doyen et de M. le recteur le tira de son affaissement. Ils causèrent tous trois pendant une heure ou deux, sans dire un seul mot de métempsychose. Mais au moment où ces deux amis se retiraient, Héraclius ne put se contenir plus longtemps. Pendant que M. le doyen endossait sa grande houppelante en peau d'ours, il prit à part M. le recteur, qu'il redoutait moins, et lui conta tout son malheur. Il lui dit comment il avait cru trouver l'auteur de son manuscrit, comment il s'était trompé, comment son misérable singe l'avait joué de la façon la plus indigne, comment il se voyait abandonné et désespéré. Et devant la ruine de ses illusions, Héraclius pleura. Le recteur, ému, lui prit les mains. Il allait parler quand la voix grave du doyen, criant « Ah ça, venez-vous, recteur !» retendit sous le vestibule. Alors celui-ci, donnant une dernière étreinte à l'infortuné docteur, lui dit en souriant doucement, comme on fait pour consoler un enfant méchant, « Là, voyons, calmez-vous, mon ami, qui sait, vous êtes peut-être vous-même l'auteur de ce manuscrit. » Puis il s'enfonça dans l'ombre de la rue, laissant sur la porte Héraclius stupéfait. Le docteur remonta lentement dans son cabinet, murmurant entre ses dents de minute en minute « Je suis peut-être l'auteur du manuscrit ». Il relut attentivement la façon dont ce document avait été retrouvé lors de chaque réapparition de son auteur, puis il se rappela comment il l'avait découvert lui-même. Le songe qui avait précédé ce jour heureux comme un avertissement providentiel, son émotion en entrant dans la ruelle des vieux pigeons, tout cela lui revint clair, distinct, éclatant. Alors il se leva tout droit, étendit les bras comme un illuminé et s'écria d'une voix retentissante « C'est moi, c'est moi !» Un frisson parcourut toute sa demeure, Pythagore aboya violemment, les bêtes troublées s'éveillèrent soudain et se mirent à s'agiter comme si chacune dans sa langue eût voulu célébrer la grande résurrection du prophète de la métempsychose. Alors, en proie à une émotion surhumaine, Héraclius s'assit, il ouvrit la dernière page de cette Bible nouvelle et, religieusement, écrivit à la suite toute l'histoire de sa vie. Chapitre 25 Ego sum qui sum. À partir de ce jour, Héraclius Glos fut envahi par un orgueil colossal. Comme le Messie procède de Dieu le Père, il procédait directement de Pythagore, ou plutôt il était lui-même Pythagore, ayant vécu jadis dans le corps de ce philosophe. Sa généalogie défiait ainsi les quartiers des familles les plus féodales. Il enveloppait dans un mépris superbe tous les grands hommes de l'humanité, leur plus haut fait lui paraissait infime auprès des siens, et il s'isolait dans une élévation sublime au milieu des mondes et des bêtes. Il était la métempsychose, et sa maison en devenait le temple. Il avait défendu à sa bonne et à son jardinier de tuer les animaux réputés nuisibles. Les chenilles et les limaçons pullulaient dans son jardin, et sous la forme de grandes araignées à pattes velues, les ci-devant mortels promenaient leur hideuse transformation sur les murs de son cabinet. Ce qui faisait dire à cet abominable recteur que si tous les expicaciètes métamorphosés à leur manière se donnaient rendez-vous sur le crâne trop sensible du docteur, il se garderait bien de faire la guerre à ces pauvres parasites déclassés. Une seule chose troublait Héraclius dans son épanouissement superbe, c'était de voir sans cesse les animaux au centre dévorés. Les araignées guettaient les mouches au passage, les oiseaux emportaient les araignées, les chats croquaient les oiseaux, et son chien Pythagore étranglait avec bonheur tout chat qui passait à sa portée. Il suivait du matin au soir la marche lente et progressive de la métempsychose par tous les degrés de l'échelle animale. Il avait des révélations soudaines en regardant les moineaux picorés dans les gouttières. Les fourmis, ces travailleuses éternelles et prévoyantes, lui causaient des attendrissements immenses. Il voyait en elles tous les désœuvrés et les inutiles qui, pour expier leur oisiveté et leur nonchalance passée, étaient condamnés à ce labeur opiniâtre. Il restait des heures entières, le nez dans l'herbe à les contempler, et il restait émerveillé de sa pénétration. Puis, comme Nabuchodonosor, il marchait à quatre pattes, se roulait avec son chien dans la poussière, vivait avec ses bêtes et se vautrait avec elles. Pour lui, l'homme disparaissait peu à peu de la création, et bientôt il n'y vit plus que les bêtes. Alors qu'il les contemplait, il sentait bien qu'il était leur frère. Il ne conversait plus qu'avec elle, et lorsque par hasard il était forcé de parler à des hommes, il se trouvait paralysé, comme au milieu d'étrangers, et s'indignait en lui-même de la stupidité de ses semblables. Chapitre 26 Ce que l'on disait autour du comptoir de Madame Labotte, marchande fruitière, 26 rue de la Maraîchèrerie. Mademoiselle Victoire, cordon bleu de Monsieur le doyen de la faculté de Balançon, Mademoiselle Gertrude, servante de Monsieur le recteur de la dite faculté, et Mademoiselle Anastasie, gouvernante de l'abbé Beaufleury, curé de Sainte-Eulalie, tel était le respectable cénacle qui se trouvait réuni un jeudi matin autour du comptoir de Madame Labotte, marchande fruitière, 26 rue de la Maraîchèrerie. Ces dames, portant au bras gauche le panier aux provisions, coiffées d'un petit bonnet blanc coquettement posé sous le cheveu, enjolivées de dentelles et de tuyautages et dont les cordons leur pendaient sur le dos, écoutaient avec intérêt Mademoiselle Anastasie qui leur racontait comme quoi, la veille même, M. l'abbé Beaufleury avait exorcisé une pauvre femme possédée de 5 démons. Tout à coup, Mademoiselle Honorine, gouvernante du docteur Héraclius, entra comme un coup de vent, elle tomba sur une chaise, suffoquée par une émotion violente, puis quand elle vit tout le monde suffisamment intrigué, elle éclata. « Non, sans trop fort à la fin, on dira ce qu'on voudra, je ne resterai pas dans cette maison !» Puis, cachant sa figure dans ses deux mains, elle se mit à sangloter. Au bout d'une minute, elle reprit un peu calmée. « Après tout, ce n'est pas sa faute à ce pauvre homme s'il est fou. »« Qui ?» demanda Madame Labotte. Mais mon maître, le docteur Héraclius, répondit mademoiselle Honorine. Ainsi, c'est bien vrai ce que disait monsieur le doyen, que votre maître a perdu la tête, interrogea mademoiselle Victoire. Je crois bien, s'écria mademoiselle Anastasie. Monsieur le curé affirmait l'autre jour à monsieur l'abbé Rosencroix que le docteur Héraclius était un vrai réprouvé, qu'il adorait les bêtes, à l'exemple d'un certain monsieur Pythagore, qui, paraît-il, est un impie aussi abominable que Luther. Qu'y a-t-il de nouveau? Interrompit mademoiselle Gertrude. Que vous est-il arrivé? Figurez-vous, reprit Honorine en essuyant ses larmes avec le coin de son tablier, que mon pauvre maître a depuis bientôt 6 mois la folie des bêtes, et il me jetterait la porte s'il me voyait tuer une mouche, moi qui suis chez lui depuis près de 10 ans. Bon, c'est bon d'aimer les animaux, mais encore est-il qu'ils sont faits pour nous, tandis que le docteur ne considère plus les hommes, il ne voit que les bêtes, et il se croit créé ou mis au monde pour les servir. Il leur parle comme à des personnes raisonnables, et on dirait qu'il entend au-dedans d'elles une voix qui lui répond. Enfin, hier au soir, comme je m'étais aperçu que les souris mangeaient mes provisions, j'ai mis une ratière dans le buffet. Et ce matin, voyant qu'il y avait une souris de prise, j'appelle le chat et j'allais lui donner cette vermine quand mon maître entra comme un furieux, il m'arracha la ratière des mains et lâcha la bête au milieu de mes conserves. Et puis, comme je me fâchais, le voilà qui se retourne et qui me traite comme on ne traiterait pas une chiffonnière. Un grand silence se fit pendant quelques secondes, puis mademoiselle Honorine reprit. Après tout, je ne lui en veux pas, ce pauvre homme, il est fou. 2 heures plus tard, l'histoire de la souris du docteur avait fait le tour des cuisines de Balançon. À midi, elle était l'anecdote du déjeuner des bourgeois de la ville. À 8 heures, monsieur le premier, tout en buvant son café, la racontait à 6 magistrats qui avaient dîné chez lui, et ces messieurs, dans des poses diverses et graves, l'écoutaient rêveusement, sans sourire et hochant la tête. À 11 heures, le préfet, qui donnait une soirée, s'en inquiétait devant 6 mannequins administratifs, et comme il demandait l'avis du recteur qui promenait de groupe en groupe ses méchancetés et sa cravate blanche, celui-ci répondit « Ah, qu'est-ce que cela prouve après tout, monsieur le préfet, que si La Fontaine vivait encore, il pourrait faire une nouvelle fable intitulée « La souris du philosophe », et qui finirait ainsi « Le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. » Chapitre 27. Comme quoi le docteur Héraclius ne pensait nullement comme le dauphin qui, ayant tiré de l'eau un singe, l'y replonge et va chercher quelque homme afin de le sauver. Lorsque Héraclius sortit le lendemain, il remarqua que chacun le regardait passer avec curiosité et qu'on se retournait encore pour le voir. L'attention dont il était l'objet l'étonna tout d'abord, il en chercha la cause et pensa que sa doctrine s'était peut-être répandue à son insu et qu'il était au moment d'être compris par ses concitoyens. Alors une grande tendresse lui vint tout à coup pour ces bourgeois dans lesquels il voyait déjà des disciples enthousiastes et il se mit à saluer en souriant de droite et de gauche comme un prince au milieu de son peuple. Les chuchotements qui le suivaient lui paraissaient un murmure de louanges, et il rayonnait d'allégresse en songeant à la confusion prochaine du recteur et du doyen. Il parvint ainsi jusqu'au Crêt de la Brille. À quelques pas, un groupe d'enfants s'agitait et riait énormément en jetant des pierres dans l'eau, tandis que des mariniers qui fumaient leurs pipes au soleil semblaient s'intéresser aux jeux des gamins. Héraclius s'approcha, puis recula soudain, comme un homme qui reçoit un grand coup dans la poitrine. À 10 mètres de la berge, plongeant et reparaissant tour à tour, un jeune chat se noyait dans la rivière. La pauvre petite bête faisait des efforts désespérés pour gagner la rive, mais chaque fois qu'elle montrait la tête au-dessus de l'eau, une pierre lancée par un des garnements qui s'amusait de cette agonie le faisait disparaître de nouveau. Les méchants gamins luttaient d'adresse et s'excitaient l'un l'autre, et lorsqu'un coup bien frappé atteignait le misérable animal, c'était sur le quai une explosion de rire et de trépignement de joie. Soudain, un caillou tranchant toucha la bête au milieu du front et un filet de sang apparut sur les poils blancs. Alors, parmi les bourreaux, éclata un délire de cris et d'applaudissements, mais qui se changea tout à coup en une effroyable panique. Blême, tremblant de rage, renversant tout devant lui, frappant des pieds et des poings, le docteur s'était élancé au milieu de cette marmaille comme un loup dans un troupeau de moutons. L'épouvante fut si grande et la fuite si rapide qu'un des enfants, éperdu de terreur, se jeta dans la rivière et disparut. Alors Héraclius défit promptement sa redingote, enleva ses souliers et à son tour se précipita dans l'eau. On le vit nager vigoureusement quelques instants, saisir le jeune chat au moment où il disparaissait, et regagnait triomphalement la rive. Puis il s'assit sur une borne, essuya, baisa, caressa le pauvre être qu'il venait d'arracher à la mort, et l'enveloppant amoureusement dans ses bras comme un fils, sans s'occuper de l'enfant que deux mariniers amenaient à terre, indifférent au tumulte qui se faisait derrière lui, il partit à grands pas vers sa maison, oubliant sous la berge ses souliers et sa redingote. Chapitre 28. Cette histoire, lecteur, vous démontrera comme, quand on veut préserver son semblable des coups, quand on croit qu'il vaut mieux sauver un chacun homme, on doit de ses voisins exciter le courroux, comment tous les chemins peuvent conduire à Rome et la motte en psychose à l'hôpital des fous, l'étoile de Balançon. 2 heures plus tard, une foule immense de peuple poussant des cris tumultueux se pressait devant les fenêtres du docteur Héraclius Gloss. Bientôt, une grêle de pierres brisa les vitres et la multitude allait enfoncer les portes quand la gendarmerie apparut au bout de la rue. Le calme se fit peu à peu. Enfin, la foule se dissipa. Mais jusqu'au lendemain, 2 gendarmes stationnèrent devant la maison du docteur. Celui-ci passa la soirée dans une agitation extraordinaire. Il s'expliquait le déchaînement de la populace par les sourdes menées des prêtres contre lui et par l'explosion de haine que provoque toujours l'avènement d'une religion nouvelle parmi les sectaires de l'ancienne. Il s'exaltait jusqu'au martyre et se sentait prêt à confesser sa foi devant les bourreaux. Il fit venir dans son cabinet toutes les bêtes que l'appartement put contenir et le soleil l'aperçut qui sommeillait entre son chien, une chèvre et un mouton et serrant sur son cœur le petit chat qu'il avait sauvé. Un coup violent frappé à sa porte l'éveilla, et Honorine introduisit un monsieur très grave que suivaient 2 agents de la sûreté. Un peu derrière eux se dissimulait le médecin de la préfecture. Le monsieur grave se fit reconnaître pour le commissaire de police et invita courtoisement Héraclius à le suivre. Celui-ci obéit fort ému. Une voiture attendait à la porte, on le fit monter dedans. Puis, assis à côté du commissaire, ayant en face de lui le médecin et un agent, l'autre s'étant placé sur le siège près du cocher, Héraclius vit qu'on suivait la rue des Juifs, la place de l'Hôtel de Ville, le boulevard de la Pucelle, et qu'on s'arrêtait enfin devant un grand bâtiment d'aspect sombre, sur la porte duquel étaient écrits ces mots « Asile des aliénés ». Il eut soudain la révélation du piège terrible où il était tombé. Il comprit l'effroyable habileté de ses ennemis et, réunissant toutes ses forces, il essaya de se précipiter dans la rue. 2 mains puissantes le firent retomber à sa place. Alors une lutte terrible s'engagea entre lui et les 3 hommes qui le gardaient. Il se débattait, se tordait, frappait, mordait, hurlait de rage. Enfin, il se sentit terrassé, lié solidement et emporté dans la funeste maison dont la grande porte se ferma derrière lui avec un bruit sinistre. On l'introduisit alors dans une étroite cellule d'un aspect singulier. La cheminée, la fenêtre et la glace étaient solidement grillées, le lit et l'unique chaise fortement attachées au parquet avec des chaînes de fer. Aucun meuble ne s'y trouvait qui pût être soulevé et manié par l'habitant de cette prison. L'événement démontra du reste que ces précautions n'étaient pas superflues. À peine se vit-il dans cette demeure toute nouvelle pour lui, que le docteur succomba à la rage qu'il suffoquait. Il essaya de briser les meubles, d'arracher les grilles, de casser les vitres. Voyant qu'il n'y pouvait parvenir, il se roula par terre en poussant de si épouvantables hurlements que les 2 hommes vêtus de blouse et coiffés d'une espèce de casquette d'uniforme entrèrent tout à coup, suivis par un grand monsieur au crâne chauve et tout de noir habillé. Sur un signe de ce personnage, les 2 hommes se précipitèrent sur Héraclius et lui passèrent en un instant la camisole de force. Puis, ils regardèrent le monsieur noir, celui-ci considéra un instant le docteur, et, se tournant vers ses acolytes, « À la salle des douches, dit-il. » Héraclius alors fut emporté dans une grande pièce froide, au milieu de laquelle était un bassin sans eau. Il fut déshabillé, toujours criant, puis déposé dans cette baignoire, et avant qu'on eût le temps de se reconnaître, il fut absolument suffoqué par la plus horrible avalanche d'eau glacée qui soit jamais tombée sur les épaules d'un mortel, même dans les régions les plus boréales. Héraclius se tut subitement. Le monsieur noir le considérait toujours, il lui prit le pouls gravement, puis il dit « Encore une ». Une 2de douche s'écroula du plafond et le docteur s'abattit, grelottant, étranglé, suffoquant au fond de sa baignoire glacée. Il fut ensuite enlevé, roulé dans des couvertures bien chaudes et couché dans le lit de sa cellule où il dormit 35 heures d'un profond sommeil. Il s'éveilla le lendemain, le pouls calme et la tête légère. Il réfléchit quelques instants sur sa situation, puis il se mit à lire son manuscrit qu'il avait eu soin d'emporter avec lui. Le monsieur noir entra bientôt, on apporta une table servie et ils déjeunèrent en tête à tête. Le docteur, qui n'avait pas oublié son bain de la veille, se montra fort tranquille et fort poli. Sans dire un mot du sujet qui avait pu lui valoir une pareille mésaventure, il parla longuement, de la façon la plus intéressante, et s'efforça de prouver à son hôte qu'il était aussi sain d'esprit que les sept sages de la Grèce. Le monsieur noir offrit à Héraclius, en le quittant, d'aller faire un tour dans le jardin d'établissement. C'était une grande cour carrée, plantée d'arbres. Une cinquantaine d'individus s'y promenaient, les uns riant, criant et pérorant, les autres graves et mélancoliques. Le docteur remarqua d'abord un homme de haute taille, portant une longue barbe et de longs cheveux blancs, qui marchait seul, le front penché. Sans savoir pourquoi, le sort de cet homme l'intéressa, et au même moment, l'inconnu, levant la tête, regarda fixement Héraclius. Puis ils allèrent l'un vers l'autre et se saluèrent cérémonieusement. Alors la conversation s'engagea. Le docteur apprit que son compagnon s'appelait Dagobert Fellorme et qu'il était professeur de langue vivante au collège de Balançon. Il ne remarqua rien de détraqué dans le cerveau de cet homme et se demandait ce qui avait pu l'amener dans un pareil lieu, quand l'autre, s'arrêtant soudain, lui prit la main et, la serrant fortement, lui demanda à voix basse « Croyez-vous à la métempsycose ?» Le docteur chancela, balbutia, leurs regards se rencontrèrent, et pendant quelques secondes, tous deux restèrent debout à se contempler. Enfin, l'émotion vainquit Héraclius, des larmes jaillirent de ses yeux, ils ouvrirent les bras et ils s'embrassèrent. Alors les confidences commencèrent, et ils reconnurent bientôt qu'ils étaient illuminés de la même lumière, imprégnés de la même doctrine. Il n'y avait aucun point où leurs idées ne se rencontrassent. Mais à mesure que le docteur constatait cette étonnante similitude de pensée, il se sentait envahi par un malaise singulier. Il lui semblait que plus l'inconnu grandissait à ses yeux, plus il diminuait lui-même dans sa propre estime. La jalousie le mordait au cœur. L'autre s'écria tout à coup « La métempsycose, c'est moi qui ai découvert la loi des évolutions des âmes, c'est moi qui ai sondé les destinées des hommes, c'est moi qui fus Pythagore. » Le docteur s'arrêta soudain, plus pâle qu'un linceul. « Pardon, dit-il, Pythagore, c'est moi. » Et ils se regardèrent de nouveau. L'homme continua. « J'ai été successivement philosophe, architecte, soldat, laboureur, moine, géomètre, médecin, poète et marin. « Moi aussi, dit Héraclius. J'ai écrit l'histoire de ma vie en latin, en grec, en allemand, en italien, en espagnol et en français, criait l'inconnu. » Héraclius reprit. « Moi aussi. » Tous deux s'arrêtèrent et leurs regards se croisèrent, aigus comme des pointes d'épée. « En l'an 184, vociféra l'autre, j'habitais Rome et j'étais philosophe. » Alors le docteur, plus tremblant qu'une feuille par un vent d'orage, tira de sa poche son précieux document et le brandit comme une arme sous le nez de son adversaire. Ce dernier fit un bond en arrière. « Mon manuscrit » hurla-t-il. Et il étendit les bras pour le saisir. « Il est à moi, mugit Héraclius !» Et avec une vélocité surprenante, il élevait l'objet contesté au-dessus de sa tête, le changeait de main derrière son dos, lui faisait faire mille évolutions plus extraordinaires les unes que les autres pour le ravir à la poursuite effrénée de son rival. Ce dernier grinçait des dents, trépignait et beuglait. « Voleur, voleur, voleur !» À la fin, il réussit par un mouvement aussi rapide qu'adroit à tenir par un bout le papier qu'Héraclius essayait de lui dérober. Pendant quelques secondes, chacun tira de son côté avec une colère et une vigueur semblables, puis, comme ni l'un ni l'autre ne cédait, le manuscrit qui leur servait de trait d'union physique termina la lutte aussi sagement que l'aurait pu faire le feu roi Salomon en se séparant de lui-même en deux parties égales, ce qui permit aux belligérants d'aller rapidement s'asseoir à 10 pas l'un de l'autre, chacun serrant toujours sa moitié de victoire entre ses mains crispées. Ils ne se relevèrent point, mais ils commencèrent à s'examiner comme deux puissances rivales qui, après avoir mesuré leurs forces, hésitent à en venir aux mains de nouveau. Dagobert Fellorme reprit le premier les hostilités. « La preuve que je suis l'auteur de ce manuscrit, dit-il, c'est que je le connaissais avant vous. » Héraclius ne répondit pas. L'autre reprit. « La preuve que je suis l'auteur de ce manuscrit, c'est que je puis vous le réciter d'un bout à l'autre dans les 7 langues qui ont servi à l'écrire. » Héraclius ne répondit pas. Il méditait profondément. Une révolution se faisait en lui. Le doute n'était pas possible, la victoire restait à son rival, mais cet auteur qu'il avait appelé de tous ses voeux l'indignait maintenant comme un faux dieu, c'est que, n'étant plus lui-même qu'un dieu dépossédé, il se révoltait contre la divinité. Tant qu'il ne s'était pas cru l'auteur du manuscrit, il avait désiré furieusement le voir, mais à partir du jour où il est arrivé à se dire « c'est moi qui ai fait cela, la métempsycose c'est moi », il ne pouvait plus consentir à ce que quelqu'un prît sa place. Pareil à ces gens qui brûlent leur maison plutôt que de la voir habitée par un autre, du moment qu'un inconnu montait sur l'autel qu'il s'était élevé, il brûlait le temple et le dieu, il brûlait la métempsycose. Aussi, après un long silence, il dit d'une voix lente et grave « Vous êtes fou !» À ce mot, son adversaire s'élança comme un forcené et une nouvelle lutte allait s'engager, plus terrible que la première, si les gardiens n'étaient accourus et n'avaient réintégré ces deux rénovateurs des guerres religieuses dans leurs domiciles respectifs. Pendant près d'un mois, le docteur ne quitta point sa chambre. Il passait ses journées seul, la tête entre ses deux mains, profondément absorbé. Monsieur le doyen et monsieur le recteur venaient le voir de temps en temps, et doucement, au moyen de comparaisons habiles et de délicates allusions, secondaient le travail qui se faisait dans ton esprit. Ils lui apprirent ainsi comment un certain Dagobert Fellorme, professeur de langue au collège de Balançon, était devenu fou en écrivant un traité philosophique sur la doctrine de Pythagore, Aristote et Platon, traité qu'il s'imaginait avoir commencé sous l'empereur Commode. Enfin, par un beau matin de grand soleil, le docteur, redevenu lui-même, l'Héraclius des bons jours, serra vivement les mains de ses deux amis et leur annonça qu'il avait renoncé pour jamais à la métempsycose, à ses expiations animales et à ses transmigrations, et qu'il se frappait la poitrine en reconnaissant son erreur. 8 jours plus tard, les portes de l'hospice étaient ouvertes devant lui. Chapitre 29. Comment on tombe parfois de Charybde en Scylla. En quittant la maison fatale, le docteur s'arrêta un instant sur le seuil et respira à plein poumon le grand air de la liberté. Puis, reprenant son pas allègre d'autrefois, il se mit en route vers son domicile. Il marchait depuis 5 minutes quand un gamin qu'il aperçut poussa tout à coup un sifflement prolongé auquel répondit aussitôt un sifflement semblable parti d'une rue voisine. Un second galopin arriva immédiatement en courant, et le premier, montrant Héraclius à son camarade, cria de toutes ses forces « Ah, voilà l'homme aux bêtes qui est sorti de la maison des fous !» Et tous deux, emboîtant le pas derrière le docteur, se mirent à imiter avec un talent remarquable tous les cris d'animaux connus. Une douzaine d'autres polissons se furent bientôt joints au premier et formèrent à l'ex-métempsycociste une escorte aussi bruyante que désagréable. L'un d'eux marchait à 10 pas devant le docteur, portant en guise de drapeau un manche à balai, au bout duquel il avait attaché une peau de lapin, trouvée sans doute au coin de quelques bornes. 3 autres venaient immédiatement derrière, simulant les roulements du tambour, puis apparaissait le docteur effaré, qui serrait dans sa grande redingote, le château rabattu sur les yeux, semblait un général au milieu de son armée. Après lui, la horde des garnements courait, gambadait, sautait sur les mains, piaillait, beuglant, aboyant, miaulant, hennissant, mugissant, criant cocorico et imaginant mille autres choses joyeuses pour le grand amusement des bourgeois qui se montraient sur leurs portes. Héraclius, éperdu, pressait le pas de plus en plus. Soudain, un chien qui rôdait vint lui passer entre les jambes. Un flot de colère monta au cerveau du docteur et il allongea un si terrible coup de pied à la pauvre bête qu'il eut jadis recueillie que celle-ci s'enfuit en hurlant de douleur. Une acalmation épouvantable éclata autour d'Héraclius qui, perdant la tête, se mit à courir de toutes ses forces, toujours poursuivi par son infernal cortège. La bande passa comme un tourbillon dans les principales rues de la ville et vint se briser contre la maison du docteur. Celui-ci, voyant la porte entrouverte, s'y précipita et la referma derrière lui, puis, toujours courant, il monta dans son cabinet, où il fut reçu par son singe, qui se mit à lui tirer la langue en signe de bienvenue. Cette vue le fit reculer, comme si un spectre se fût dressé devant lui. Son singe, c'était le vivant souvenir de tous ses malheurs, une des causes de sa folie, des humiliations et des outrages qu'il venait d'endurer. Il saisit un escabeau de chêne qui se trouvait à portée de sa main et d'un seul coup fendit le crâne du misérable quadrumane qui s'affaissa comme une masse aux pieds de son meurtrier. Puis, soulagé par cette exécution, il se laissa tomber dans un fauteuil et déboutonna sa redingote. Honorine parut alors et faillit s'évanouir de joie en apercevant Héraclius. Dans son allégresse, elle sauta au cou de son seigneur et l'embrassa sur les deux joues, oubliant ainsi la distance qui sépare, aux yeux du monde, le maître de la domestique. Ce en quoi, disait-on, le docteur lui en avait jadis donné l'exemple. Cependant, la horte des polissons ne s'était point dissipée et continuait devant la porte un si terrible charivari qu'Héraclius, impatienté, descendit à son jardin. Un spectacle horrible le frappa. Honorine, qui aimait véritablement son maître tout en déplorant sa folie, avait voulu lui ménager une agréable surprise lorsqu'il rentrerait chez lui. Elle avait veillé comme une mère sur l'existence de toutes les bêtes précédemment rassemblées en ce lieu, de sorte que, grâce à la fécondité commune à toutes les races d'animaux, le jardin présentait alors le spectacle semblable à celui que devait offrir, lorsque les eaux du déluge se retirèrent, l'intérieur de l'arche où Noé rassembla toutes les espèces vivantes. C'était un amas confus, un pullulement de bêtes sous lesquelles arbres massifs, herbes et terres disparaissaient. Les branches pliaient sous le poids des régiments d'oiseaux, tandis qu'au-dessous, chiens, chats, chèvres, moutons, poules, canards et dindons se roulaient dans la poussière. L'air était rempli de clameurs diverses, absolument semblables à celles que poussait la marmaille ameutée de l'autre côté de la maison. À cet aspect, Héraclius ne se contint plus. Il se précipita sur une bêche oubliée contre le mur et, semblable au guerrier fameux dont Homère raconte les exploits, bondissant, tantôt en avant, tantôt en arrière, frappant de droite et de gauche, la rage au cœur, l'écume aux dents, il fit un effroyable massacre de tous ses inoffensifs amis. Les poules effarées s'envolaient par-dessus les murs, les chats grimpaient dans les arbres. Nul n'obtint grâce devant lui, c'était une confusion indescriptible. Puis, lorsque la terre fut jonchée de cadavres, il tomba enfin de lassitude et, comme un général victorieux, s'endormit sur le champ du carnage. Le lendemain, sa fièvre s'étant dissipée, il voulut essayer de faire un tour par la ville. Mais à peine eut-il franchi le seuil de sa porte que les gamins embusqués au coin des rues le poursuivaient de nouveau, criant « Ouh, 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 l'homme aux bêtes, l'ami des bêtes !» Et ils recommençaient à les cris de la veille avec des variations sans nombre. Le docteur rentra précipitamment. La fureur le suffoquait. Il ne pouvait s'en prendre aux hommes. Il jura une haine inextinguible et une guerre acharnée à toutes les races d'animaux. Dès lors, il n'eut plus qu'un désir, qu'un but, qu'une préoccupation constante, tuer des bêtes. Il les guettait du matin au soir, tendait des filets dans son jardin pour prendre les oiseaux, des pièges dans ses gouttières pour étrangler les chats du voisinage. Sa porte, toujours entr'ouverte, offrait des viandes appétissantes à la gourmandise des chiens qui passaient et se refermait brusquement dès qu'une victime imprudente succombait à la tentation. Des plaintes s'élevèrent bientôt de tous côtés contre lui. Le commissaire de police vint plusieurs fois en personne le sommer d'avoir à cesser cette guerre acharnée. Il fut criblé de procès, mais rien n'arrêta sa vengeance. Enfin, l'indignation fut générale. Une seconde émeute éclata dans la ville, et il aurait été sans doute écharpé par la multitude sans l'intervention de la force armée. Tous les médecins de Balançon furent convoqués à la préfecture et déclarèrent à l'unanimité que le docteur Héraclius Gloss était fou. Pour la seconde fois encore, il traversa la ville entre deux agents de police et vit se refermer sur ses pas la lourde porte de la maison sur laquelle était écrit « Asile des aliénés ». Chapitre 30. Comme quoi le proverbe « plus on est fou, plus on rit » n'est pas toujours exactement vrai. Le lendemain, il descendit dans la cour de l'établissement et la première personne qui s'offrit à ses yeux fut l'auteur du manuscrit métempsychociste. Les deux ennemis marchèrent l'un vers l'autre en se mesurant du regard. Un cercle se fit autour d'eux. Dagobert Fellorme s'écria « Voilà l'homme qui a voulu me dérober l'œuvre de ma vie, me voler la gloire de ma découverte !» Un murmure parcourut la foule. Héraclius répondit « Voici celui qui prétend que les bêtes sont des hommes et que les hommes sont des bêtes. » Puis, tous deux ensemble se mirent à parler, ils s'excitèrent peu à peu, et comme la première fois, ils en vinrent bientôt aux mains. Les spectateurs les séparèrent. À partir de ce jour, avec une ténacité et une persévérance merveilleuses, chacun s'attacha à se créer des sectaires. Et peu de temps après, la colonie tout entière était divisée en deux partis rivaux, enthousiastes, acharnés, et tellement irréconciliable qu'un métempsychociste ne pouvait se croiser avec un de ses adversaires sans qu'un combat terrible s'ensuivît. Pour éviter de sanglantes rencontres, le directeur fut contraint d'assigner des heures de promenade réservées à chaque faction, car jamais haine plus tenace n'avait animé deux sectes rivales depuis la querelle fameuse des Guelfes et des Gibelins. Grâce du reste à cette prudente mesure, les chefs de ces deux clans vécurent heureux, aimés, écoutés de leurs disciples, obéis et vénérés. Quelquefois, pendant la nuit, un chien qui hurle en rôdant autour des murs fait tressaillir dans leur lit Héraclius et Dagobert. C'est le fidèle Pythagore qui, échappé par miracle à la vengeance de son maître, a suivi sa trace jusqu'au seuil de sa demeure nouvelle et cherche à se faire ouvrir les portes de cette maison où les hommes seuls ont le droit d'entrer.